voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité décryptage, je vous rappelle que ce soir nous parlons de la RDC. Après l'échec l'an dernier des 8 confessions religieuses à trouver un candidat consensuel pour occuper la présidence de la commission électorale, cette nouvelle tentative en cours sera-t-elle la bonne? Nous ouvrons le débat dans quelques minutes, mais je vous propose cette escale.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Dominique Sopor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de SOS Racisme. Des membres de votre association ont investi vendredi dernier l'avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement de Paris et avaient ajouté les mots du boucher, criminel de guerre, bourreau de la conquête de l'Algérie sur la plaque portant le nom de ce dernier. Quel était le sens de votre démarche?
Le sens de notre démarche, c'était d'interpeller en cette journée du 19 mars qui correspond à une journée nationale en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie ainsi que des combats qui ont eu lieu en Tunisie et au Maroc. Puisque cette date, le 19 mars, en 1962, a été la date, on pourrait dire, de la fin de la guerre d'Algérie avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et ce que nous avons voulu par cette action, c'est dire que finalement la France n'est pas très tranquille avec son passé algérien, qui est un passé qui non seulement correspond à la guerre d'Algérie, mais correspond aussi à toute la période de la conquête et de la colonisation. Et que l'espace public est un espace public qui aujourd'hui peut rester structuré par des honneurs rendus impunément à des gens qui pourtant se sont comportés de façon outrageusement criminelle dans des guerres, et ça a été le cas pour le maréchal Bugeaud lors de la conquête de l'Algérie, puisque ce maréchal a massacré des populations civiles ou a donné l'ordre de massacrer des populations civiles.
Vous posez cet acte également au moment où Paris cherche à décrisper l'atmosphère après le rapport controversé de Benjamin Stora. Est-ce que votre acte ne risque pas de jeter de l'huile sur le feu ?
Non, je ne pense pas que notre acte jette de l'huile sur le feu. Au contraire, je pense que si on veut regarder notre passé algérien en face, eh bien, il faut vraiment le regarder. Nous n'avons pas débaptisé la rue, nous n'avons pas mis un autre nom à la place, nous avons ajouté une mention, comme vous le disiez.
Avenue du Boucher, Bugeaud.
Tout à fait. Donc nous avons apporté, on pourrait dire, des précisions sur qui était ce personnage, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait une capacité de discuter collectivement dans notre pays de qui on honore en République par rapport à la guerre d'Algérie et au passé algérien, bien évidemment, mais je pense que c'est une problématique plus globale par rapport au passé colonial de la France. Donc nous ne sommes pas dans des logiques d'effacement ou de la tension, nous sommes dans des logiques consistant à dire regardons ce passé, qui est un passé qui continue à être agissant aujourd'hui parce qu'il nous a légué des systèmes de représentation, parce qu'il est le soubassement de douleurs, de rancœurs, de haines qui peuvent exister au sein même de la société française, et on ne se défera pas de l'ensemble de ces problèmes si on continue à regarder ailleurs.
Et vous considérez que la classe politique française ou les autorités françaises esquivent ou tentent d'esquiver ce débat public sur qui on honore ?
C'est en partie esquivé, parce que c'est vrai qu'il y a des modifications, évidemment, qu'on voit bien, d'ailleurs, la ville de Paris elle-même, en mettant aussi à l'honneur davantage de femmes, davantage de personnes homosexuelles, etc. On voit bien qu'il y a une tentative de redresser la barre, si je puis dire, par rapport à des noms dans les rues, qui sont d'abord des noms, en général, d'hommes. Il y a très peu de femmes qui sont honorées dans l'espace public, sauf quand ce sont des saintes de l'Église catholique, hein. Sinon il n'y a quasiment pas de femmes qui en vrai sont honorées dans l'espace public, c'est très très rare. Donc je pense qu'il y a des réflexions sur l'espace public, sur qui il faut honorer, mais je pense qu'il y a une problématique particulière lorsque l'on est confronté au passé colonial, où là il y a beaucoup de malaise qui existe, alors même que, me semble-t-il, un débat serein serait de nature justement à nous aider à regarder ce passé en face à le regarder ensemble pour aussi pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir.
Vous interpellez les élus parisiens, vous leur demandez de s'emparer pleinement de ce débat. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ?
C'est d'abord peut-être d'avoir une réflexion déjà sur l'avenue Bugeaud, qui est une des rues très emblématiques et très problématiques de ce qui peut encore exister dans l'espace public aujourd'hui, en sachant que les noms qui posent problème peuvent parfois faire l'objet d'un changement de nom, bon, ça arrive que l'on change les noms, voilà, soit de précision sur qui étaient ces personnages et comment ils ont pu se retrouver honorés dans l'espace public, soit parce que il y avait des actes positifs qui font qu'ils ont été honorés, soit parce que ce sont des actes qui aujourd'hui créent le scandale, mais ont été vus pendant une certaine période comme étant des actes positifs. Donc ça, c'est sur les noms existants, dont notamment celui de Bugeaud. Et puis par ailleurs, on peut aussi avoir une réflexion plus globale sur les noms de rue, sur le développement d'une statuaire, par exemple, à Paris, ou de symboles à Paris qui viennent honorer dans l'espace public des personnes qui montreraient un autre visage ou une plus grande diversité des figures qui méritent d'être honorées publiquement en France aujourd'hui et particulièrement dans sa capitale.
Dominique Sopo, merci beaucoup.
Merci.
Président de SOS Racisme.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et dans le grand rendez-vous ce soir, nous parlons des efforts engagés par les confessions religieuses en RDC pour tenter de trouver un candidat consensuel pour occuper la présidence de la commission électorale après l'échec de l'année dernière. Nous en parlons avec nos invités qui sont à Kinshasa, ici à Paris. Francis Kalombo, bonsoir. Allô, monsieur Kalombo, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Bonsoir.
Bonsoir à vous, député honoraire et porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi et l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean-Claude Tshilumbayi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes avocat, professeur d'université et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS du président Tshisekedi. Et avec nous ici à Paris, professeur Alfred Toumba Changoloko. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue et professeur à l'université de Sorbonne, Paris 3. Je vais commencer par l'abbé Donatien Chollet. Comment se déroule le processus que vous avez lancé en début de semaine, monsieur l'abbé, de recrutement d'un président ou d'une présidente à la tête de la commission électorale de votre pays ?
Eh bien, c'est un long processus que nous avons pensé bon commencer plus tôt pour qu'au moment où la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI sera adoptée, nous soyons déjà fort avancés. Donc, à l'étape actuelle, il s'agit de dépôts de candidatures dans les différentes commissions religieuses. Entre-temps, nous continuons à faire un plaidoyer assez sérieux pour que l'Assemblée nationale commence déjà à traiter en urgence la proposition de loi existante pour que nous gagnions le pari de l'élection constitutionnelle.
Étape donc de recrutement, d'enregistrement des candidatures, les personnes intéressées ou les candidats intéressés ont jusqu'au 9 avril prochain. Vous êtes à combien de candidats à ce jour, de candidatures enregistrées ?
Ben, je ne sais pas, c'est chaque confession religieuse qui reçoit.
Et au niveau de la CENCO, l'Église catholique ?
Je ne suis pas au bureau, je suis à Bukavu, donc le secrétariat administratif reçoit, je ne m'informe pas au quotidien sur ça. C'est le jour indiqué que quand je vais rentrer au bureau, j'aurai déjà une idée, mais le processus est lancé.
Est-ce que, c'est une question peut-être, moi aussi, de plaidoyer, hein, est-ce qu'à compétence égale, la priorité sera à une candidature, sera donnée à une candidature féminine au moment où on parle beaucoup de parité ?
Ben, il s'agit bien de parité, il ne s'agit pas de privilégier l'un ou l'autre sexe, c'est la compétence, les principaux critères, c'est l'expertise en matière électorale il y a l'expérience, il y a la bonne moralité, il y a des femmes qui peuvent réunir ces critères-là. Je ne vois pas pourquoi ce qu'on leur accorderait pas ça, si ce serait le cas.
D'accord. Je vais donner à présent la parole aux acteurs politiques. Je commence avec vous, monsieur Maître Tshilumbayi. Est-ce que le processus lancé par l'Église, les églises et les 8 confessions religieuses, est-ce que vous partagez cette démarche?
D'abord, je salue M. Abbé, Donatien Cholet, je salue Maître Francis Kalombo. J'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Abbé Cholet sur cette question à la radio Okapi. Je crois que nous avions déploré tous que la charrue ait été placée devant le bœuf, qu'on a pu s'engager dans un processus de mobilisation des candidatures autrefois, sans préalablement finaliser les réformes pourtant souhaitées par tout le monde. Et cette fois-là, M. Rabé lui-même avait heureusement reconnu que c'était une erreur qu'il fallait corriger. À ce niveau, les réformes envisagées sont apparemment imminentes et que dans ces réformes qui ne sont pas, qui ne viennent pas de la volonté comme telle des politiques dans l'espace ou dans la classe politique, mais plutôt des politiques institutionnelles. Parce qu'il s'agit là pour les députés de proposer ou de, plutôt d'accepter les propositions qu'ils considéreront comme valides à leur vue et qu'il n'y a pas une obligation constitutionnelle de réformer. Les députés peuvent refondre toute cette procédure-là alors qu'ils auront déjà récolté les candidatures selon une autre procédure. Ces réformes qui n'ont pas visiblement de limitations claires sont ouvertes. C'est de cette façon-là que moi je pensais qu'à ce niveau, bien que je suis d'accord du point de vue juridique que les réformes ne sont pas constitutionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas une obligation constitutionnelle avant les élections, mais pour autant que la classe politique dans son ensemble, nous avons trouvé ce consensus qu'il faut procéder à ces réformes avant ces élections, il était nécessaire, à mon avis, que l'on attende, parce que là, il y a risque de tomber dans les travers du passé avec des manifestations que nous avons connues.
Merci beaucoup.
On ne peut pas estimer qu'on prend d'abord les candidatures parce que la procédure sera longue et finalement on attendra l'examen de la loi en procédure d'urgence. Tout cela va dépendre de députés.
Merci.
Deuxièmement,
pour terminer, s'il vous plaît.
Deuxièmement, moi j'estime que la manière dont nous préparons notre population à ces réformes, elle est dangereuse, elle est explosive. Parce qu'on a comme impression qu'il y a ces réformes préconçues, que les députés sont supposés engammer comme tels. Non, les députés peuvent aller dans un sens contraire à celui que nous souhaitons, et même à celui que les pères évêques souhaitent par exemple, parce que c'est eux qui ont reçu mandat du peuple de procéder à ces réformes. Pendant que nous voulons par exemple qu'on enlève le seuil, et ils peuvent décider d'accentuer le seuil en le mettant, par exemple, à 20%.
Merci beaucoup. Donc, on ne sait pas ce que ces réformes vont donner. Permettez, maître, qu'on fasse un tour de table, parce que je veux connaître la température au niveau des états-majors politiques. Vous dites que les réformes d'abord, ensuite le recrutement d'un président de la commission électorale, que les églises mettent la charrue avant les bœufs. Est-ce que c'est votre avis également au niveau de votre parti, monsieur Kalombo?
Pas du tout. Hein. Moi, je crois que le travail que le prêtre sont en train de faire, d'ailleurs, c'est mieux. Puisque souvent, nous, au Congo, on court derrière le temps après. Voilà, pour une fois, ils ont pensé commencer déjà à préparer les candidats. Les candidats auront le temps de s'habituer et puis ça va avancer. Cela n'a rien à voir avec ce qui est en train de se faire au niveau du Parlement, puisqu'on a quand même une idée. Parce que la loi sur la CENI n'a rien à voir avec le seuil au niveau des élections. Ça, c'est une loi qui viendra, qui n'aura rien à voir avec... même si le seuil est là, le seuil ne va pas déranger puisque la CENI doit être dirigée par quelqu'un. Alors, ce que font ce qui est en train de faire ce que font la confession religieuse, c'est de préparer les gens.
Donc, vous pensez que les confessions religieuses anticipent?
Moi, non, ils font bien d'ailleurs les choses. Il faut anticiper, il ne faut pas attendre à la dernière minute, commencer à courir à la va-vite. Non, au moins maintenant, on verra le profil de ceux qui sont des candidats. Et d'ailleurs, la population pourra peut-être commencer à réagir bien avant, parce que les élections, c'est quoi ? Il s'agit de la personne qui va diriger les élections pour l'intérêt général, pour le bien-être du peuple congolais. Alors maintenant, si on découvre déjà, la population peut découvrir bien avant que voilà, il y a telle personnalité qui est candidat, et commencer déjà à respecter telle, on n'en veut pas ou quoi que ce soit, parce que X ou Y, serait une bonne chose plutôt qu'on nous sort quelqu'un comme on a vu dans le passé, sorti de quelque part, et du coup, on vous impose la personne. Non. Moi, je crois que pourquoi on doit refuser que les gens se préparent en avance ? C'est comme les élections doivent être préparées bien avant. On ne peut pas attendre à la dernière minute et commencer à courir derrière le temps. Moi, je crois que ce qu'ils sont en train de faire, et ça gêne d'ailleurs personne, puisque c'est entre corporations, ils vont avancer, ils vont essayer de faire. Moi, je ne vois pas d'inconvénient dans ce qu'ils sont en train de faire.
Bon, juste...
Si les gens pensent que...
Oui. Excusez-moi, M. Kalombo, vous avez dit que ça ne gêne d'ailleurs personne, mais il y a également au niveau de la société civile des voix discordantes. Le peuple congolais est contre l'option de désigner le président de la CENI avant les réformes des lois électorales. C'est ce qu'a déclaré Jean-Claude Katengue de l'Association africaine des droits de l'homme, la SADO.
Mais il ne sera pas désigné avant les réformes. La Béchaud l'a bien expliqué, et nous l'avons entendu comme ça, c'est pas avant les réformes. Les réformes auront lieu, et c'est seulement après les réformes qu'on va désigner. Comment on va désigner avant les réformes ? Je crois que, tout comme l'Église catholique, tout comme la population voulait qu'on puisse réformer la manière de faire les élections. Et aujourd'hui, il y a une loi qui, d'ailleurs, d'ici là, les députés vont se mettre en urgence à travailler sur cette loi-là.
Merci.
Alors, comment penser que ça sera avant? Non, on va les désigner.
Donc voilà, pour vous, c'est l'enregistrement. Il n'y a pas de mal à enregistrer au moins les candidatures avant l'aboutissement de ces réformes.
C'est que les gens ignorent. Tous ceux qui ont l'ambition de devenir président de cette organisation, de cette structure, sont déjà en train de frapper les portes de gauche à droite. Ça fait bientôt, je ne sais pas combien de temps.
Merci.
Donc eux, ils n'attendent pas.
Merci
donc,
beaucoup.
C'est un secret des polichinelles que les gens sont en train de courir de gauche à droite pour avoir l'aval de pouvoir être un jour président de la CENI.
Merci,
c'est légitime. Moi, je ne vois pas d'inconvénient.
Merci, Monsieur Kalombo. Professeur Toumba Shangoloko, votre avis sur cette question déjà d'approche qui ne fait pas consensus au niveau de la classe politique ?
Oui, Liliane, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer l'abbé Cholet et puis Maître Chilumbayi et Francis Kalombo. Je dirais que pour une fois, je suis d'accord avec Francis Kalombo, dans la mesure où qui veut aller loin ménage sa monture. Et on connaît la classe politique RD congolaise, on connaît la situation politique de ce pays-là, qui a tendance à attendre toujours la dernière minute pour se bouger. Pour une fois qu'il y a une forme d'anticipation en attendant que la réforme de la CENI ait lieu, qu'il y ait ce dépôt des candidatures au poste de la présidence de la CENI, ça n'est pas une mauvaise chose. Je pense plutôt que c'est ce qui est en train de se passer, ce que j'entends, c'est vraiment une querelle de clocher, une mauvaise querelle. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le président de l'Assemblée nationale actuelle, Mboso Kodia, qui a demandé justement aux confessions religieuses de pouvoir se mettre en ordre de bataille pour le recueil de ces candidatures, des futurs candidats au poste de président de la CENI, de se mettre en place. Et donc, pour moi, effectivement, c'est la bonne démarche qui ne préjuge pas de ce qui se passera au moment où l'Assemblée nationale va se réunir pour discuter de la question de la réforme de la CENI. Donc, il ne faut pas attendre. En même temps, par le geste de la CINCO, je crois qu'il s'agit aussi de mobiliser les consciences citoyennes et d'en appeler à la responsabilité, au fond, à la fois de ceux qui voudraient postuler à ce poste-là et en même temps en appeler à la vigilance des Congolaises et Congolais. Parce que sinon, on risque effectivement d'être surpris et puis de se retrouver encore
comme dans les glissements, les glissements électoraux.
Absolument.
Merci
donc,
beaucoup.
Donc pour éviter cela, oui.
Voilà. Pardon, professeur, on va poursuivre dans un instant avec vous, évidemment, et les autres invités, et on va écouter ce que pense Maître Tshilumbayi de tous ces arguments qui ont été donnés pour justifier le démarrage des candidatures par les équipes.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et en RDC, les 8 confessions religieuses reconnues officiellement ont lancé un appel à candidature pour la présidence de la commission électorale après l'échec de l'année dernière. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Nous en débattons ce soir avec 4 invités, professeur Alfred Toumba Changoloko, politologue, Jean-Claude Tshilumbayi, avocat, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS du président Tshisekedi, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale, la CENCO, et Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi. Maître Tshilumbayi, vous m'entendez ?
Je vous entends, madame.
Vous avez écouté les arguments des uns et des autres. Est-ce que vos craintes sont dissipées ? Vous disiez que le fait de lancer cette procédure devrait intervenir après la fin des réformes. Les églises expliquent aussi que elles retardent à recruter un président de la CENI, cela pourrait servir de prétexte à ce qu'on appelle le glissement électoral, les changements de date des élections, comme on a constaté avant la dernière élection présidentielle.
Je suis parfaitement d'accord avec le père évêque. Je suis parfaitement d'accord avec la conception qu'il faut amener vite des choses, mais dans l'ordre. On ne va pas ligoter les députés. Cette conception de penser que les réformes épargneraient les profils des candidats est erronée. Les députés qui ont le mandat du peuple, qui sont les seuls chargés de réformer, du moins en ce qui concerne des questions dont ils ont le pouvoir, sur lesquels ils ont le pouvoir de réforme ou de révision, peuvent aussi proposer les profils des candidats, et que ça sera après qu'eux aient reçu les candidatures. Donc c'est du droit des députés, dans les réformes, de penser aussi que ce que nous avons fait dans le passé, parce que toutes les élections que nous avons connues avaient été contestées. Il faut rappeler que toutes ont été organisées par des personnes issues de confessions religieuses. D'abord, un prêtre, qui s'appelle Malou. Ensuite, un pasteur d'une grande église, de réveil, comme on appelle chez nous ici, et puis un diacre d'une église. Toutes ces élections ont posé problème. Si, à ce jour, les députés décident d'inscrire un critérium objectif de recrutement de ces candidatures, on devrait s'y plier. C'est là que moi, j'ai craint que l'on se mette dans une posture de lier le pouvoir que notre Constitution reconnaît à l'Assemblée, qui est l'autorité des réformes en ce moment, ou plutôt au Parlement, qui est l'autorité des réformes en ce moment.
Pourquoi nous sommes
tous d'accord qu'un accord de principe a été obtenu avec le président de l'Assemblée, qui a promis qu'il va prioriser les débats sur ces réformes. J'ai dit que ces réformes peuvent viser aussi le profil des candidats.
D'accord. Et au-delà du profil du candidat, est-ce que ces réformes en cours à l'Assemblée nationale peuvent aussi aboutir à une remise en question même du rôle que jouent les 8 confessions religieuses, puisque ce sont elles qui sont chargées de désigner le président ou la présidente de la commission électorale ?
Bien évidemment, parce que il s'agit là de réformes qui ne vont pas épargner la Constitution de la République. Et si on les pousse plus loin, il n'est même pas interdit qu'elles envisagent la possibilité d'aller au référendum, qu'il y ait une possibilité si ces réformes seraient de nature radicale.
Merci.
C'est là que moi j'insiste sur le fait que, à ce jour, il ne faut pas que les politiques s'attendent à des mesures préconçues. Lorsque chacun dit réforme, il a dans sa tête ce qu'il voit être l'avenir des lois et de la Constitution, alors qu'il n'en a pas en effet le pouvoir. C'est le Parlement qui va réformer.
Merci,
donc,
Maître Tshilumbayi.
Pour autant que ces réformes peuvent toucher au profil des candidats. Et pour autant que nous avons vécu ce que nous avons vécu dans le passé, des casse pour cette manière cavalière de désigner les candidats de la CENI, il faut prendre notre mal en patience que l'Assemblée adopte ces réformes. Peut-être que l'Assemblée pourrait les rejeter en bloc.
Merci,
nous ne sommes pas obligés de réformer avant d'aller aux élections.
On a bien compris. L'abbé Donatien Choly, est-ce que finalement, quand on écoute Maître Tshilumbaye, on n'a pas l'impression qu'on est dans une course contre la montre, peut-être au niveau des églises ou des confessions religieuses qui se disent il faut le faire vite, il faut vite bénéficier de cet avantage ou de ce privilège que nous donne la loi de choisir un président de la CENI parce que les réformes peuvent changer la donne?
Bon, je suis d'abord content d'une chose, c'est qu'il y a un consensus sur la nécessité des réformes, particulièrement celles qui touchent à l'organisation de la CENI avant de désigner les candidats. Donc là, nous sommes tous d'accord. Et là, je ne suis pas d'accord avec Maître Tshilumbaye et ça commence à me préoccuper. J'ai l'impression que dans son raisonnement, il ne tient pas compte du délai constitutionnel. Quand il considère que, à moins que je l'ai mal compris, que le Parlement a toute la latitude de gérer le temps comme il veut, alors que c'est une question pour laquelle le chef de l'État s'est prononcé clairement, et s'il a cassé l'ancienne coalition, c'est pour avoir une certaine cohésion dans les réflexions, une nouvelle dynamique qui faciliterait la politique qu'il veut impulser. Et quand c'est l'Assemblée elle-même plutôt, qui considère que c'est une question prioritaire, en disant que c'est une question prioritaire, ça signifie que si à la fin de cette session ici, ils n'arrivent pas à résoudre ça, ça signifie qu'ils auront échoué. Donc nous avons confiance au chef de l'État qui s'est exprimé plusieurs fois là-dessus. Nous avons confiance à l'Assemblée et ce que nous faisons, là je ne suis pas d'accord avec le maître Tshilumbaye, c'est que cette réforme, je comprends que ça peut toucher la façon de désigner de gens, mais les profils, je ne vois pas un profil qui ne prendrait pas en compte l'expertise, un profil qui ne prendrait pas en compte l'expérience, un profil qui ne prendrait pas en compte la moralité.
Le Parlement, les réformes peuvent peut-être aussi permettre même aux parlementaires d'intervenir dans le choix du président de la CENI, au-delà même de la révision des critères de désignation.
Là n'est pas le problème. Du moment que nous n'allons pas désigner quelqu'un avant
la fin des réformes,
les réformes n'est pas de problème. C'est nous qui aurons perdu du temps, mais nous voulons être prédoyants. Nous ne voulons pas qu'un jour, on nous mette dans le lot de ceux qui ont contribué à retarder les élections.
Merci.
Si le travail que nous aurons fait ne serviront pas à la lumière des réformes, est-ce qu'il y a un problème? Le pays aura perdu quoi?
D'accord. Donc, à la limite, ce qu'on aura perdu, c'est d'abandonner les choix que vous aurez proposés.
Non, là, c'est à l'interne. Parce qu'on devrait on le fait à toute conscience que les réformes peuvent amener à changer l'une ou l'autre chose par rapport à la. Et nous insistons. C'est tellement fondamental. Le peuple congolais aujourd'hui n'a plus confiance aux élections. Merci. À notre système électoral. Donc, même sur le plan psychologique, le Parlement ne sera sérieux que s'il prenait vraiment cette question à cœur et dans un bref délai.
Merci beaucoup. Monsieur Kalombo? Allô, Monsieur Kalombo?
Oui, je suis là.
Oui, décidément, on est comme dans un dialogue de sourds concernant ce processus lancé, à propos de ce processus lancé par les confessions religieuses.
Non, ce n'est pas un dialogue de sourds. D'un côté, j'ai mon estimé confrère Maître Tshilumbaye qui donne son avis personnel en tant que citoyen, et libre à lui de donner son avis. Par contre, ce qui doit retenir...
Mais il est quand même rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS.
Qui est un parti politique privé, qui n'a rien à voir avec l'ensemble du peuple congolais ni les institutions. Il faut le retenir. Mais que cela ne tienne. Mais les confessions religieuses ne se sont pas mises debout comme ça et commencer à demander aux gens de faire des dépôts de candidature. Ça aussi, Maître Tshilumbaye doit retenir. C'est le président de l'Assemblée nationale qui leur a demandé de pouvoir commencer déjà à s'organiser. C'est sur cette demande de numéro un des parlementaires qui sont en train d'étudier maintenant la loi. Et même les réformes, Maître Tshilumbaye est avocat, il sait bien que les lois sont impersonnelles. Et maintenant, si on demande aux gens de manifester leurs ambitions, ceux qui ont besoin, qui veulent de se manifester, quoi de mal ? Il n'y a rien de mal quant à ça. Moi, je crois que, personnellement, on n'a peur de rien. Les élections auront bel et bien lieu et qu'il y aura toujours un président au niveau de la commission électorale. Et pour une fois, en République démocratique du Congo, on veut faire les choses telles que le président de la République l'a demandé. Le président est pressé d'avoir cette institution commencer déjà à fonctionner. Il a dit qu'on a pris du retard. Vous savez, les élections, ce n'est pas simplement le vote. Il y a l'avant. Il y a toute une programmation à faire avant d'en arriver là. Maintenant qu'il n'y a personne à la tête, il faut quand même que rapidement on désigne. Mais maintenant, on parle d'ailleurs pour le président de la CENI. Mais il y a plusieurs personnalités qui viendront de la société civile qui doivent être désignées pour occuper des postes au niveau de... Il y a la plénière de la CENI, il y a tout ça. Et il faut tenir compte de tout ça. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas à paniquer. On doit être tranquille puisqu'il s'agit d'une élection qui concerne la République démocratique du Congo qui, pour une fois... Nous sommes tous décidés de bien faire les élections. Voilà
Merci
pourquoi
beaucoup.
Il faut qu'on puisse se préparer bien avant.
Professeur Loko, on voit que je parlais de poste du président de la CENI, de la présidente qui est très convoitée. Mais on voit que quand on écoute les uns et les autres, on risque d'arriver à la même situation à laquelle on a assisté l'année dernière lorsqu'il a fallu choisir un président et autour du nom de Ronsard Malonga.
Oui, avant de répondre à votre question, Liliane, je voudrais prendre le problème par l'autre bout à l'envers. Voilà, entre le moment où le président Tshisekedi a lancé l'idée de l'union sacrée, et maintenant, il s'est écoulé à peu près 3 mois. Et au bout de 3 mois, on n'a pas toujours le gouvernement. Si déjà à ce niveau-là, il y a des obstacles qui empêche la constitution d'un gouvernement. À plus forte raison quand il va s'agir justement de penser réforme de...
réforme électorale.
Électorale. Donc je pense effectivement que j'ai du mal à suivre le raisonnement de Maître Tshilumbaye. Je ne vois pas un lien de cause à effet entre le choix des candidats, de dépôt des candidats aujourd'hui à travers les confessions religieuses et la réforme de la CENI ou de la loi électorale. Ce sont deux choses qui sont différentes mais qui sont connexes. En fait, recueillir au fond les candidatures n'invalide pas ou n'empêche pas l'Assemblée nationale de
conduire, de travailler et de discuter des réformes. Ça, maintenant, sur le risque, oui.
Oui, alors, ce que moi je crains plutôt, c'est les derniers mots, ce que j'ai entendu dans les derniers mots de Maître Tshilumbaye qui dit que l'Assemblée n'aurait même pas, à un certain moment, obligation de réforme avant les élections. Et ça trahit effectivement une certaine pensée au sein de l'UDPS qui est dans cette idée, effectivement, que soit on irait vers le glissement en 2023, voilà, mais en réalité, on n'arrivera pas à la situation de Malonga. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la coalition FCC-CASH était encore là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a l'Union sacrée qui est en train de se mettre en place. Par conséquent, j'ai du mal à voir effectivement comment ceux qui se sont engagés à suivre Félix Tshisekedi dans cette idée de l'union sacrée voudraient justement empêcher que ce processus aille jusqu'à son terme. Et c'est pourquoi, je crois, l'appel l'Église catholique, de la Cinco en particulier, est très intéressant, dans la mesure où, effectivement, disons, au fond, oui, ils ont tous accepté l'union sacrée, mais pour qu'il y ait véritablement des changements, à la tête des institutions, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce gouvernement d'union sacrée.
Merci.
Ce qui garantirait effectivement que, par la suite, s'il y a cette discussion sur la réforme, qu'il y a un consensus qui se dégage.
Merci beaucoup, professeur Shango Loko. On va se retrouver dans un instant pour la suite et fin de notre débat sur le processus de désignation d'un président à la tête de la commission électorale en RDC.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quatre invités ce soir pour parler du processus de désignation du président de la commission électorale à RDC avec Jean-Claude Tilumbayi, avocat, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti au pouvoir RDC, professeur Alfred Toumba Shangoloko, politologue, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale, la CENCO, et Francis Kalombo, député et porte-parole de Moïse Katumbi. Je vais m'adresser à vous, professeur, l'abbé Donatien Cholet. L'année dernière, on reprochait aux confessions religieuses d'être otages des jeux d'intérêt politique. Est-ce que cette page est tournée aujourd'hui? Le contexte a-t-il changé?
Je n'ai pas bien compris la question, madame.
J'ai dit l'année dernière, monsieur l'abbé, lorsqu'il fallait désigner un président à la tête de la commission électorale, il y a eu beaucoup de tractations. Après, Ronsa Malanda a été désigné. Il n'a finalement pas pu prendre fonction. Est-ce que cette année, les choses ont changé? Parce qu'à l'époque, on accusait les confessions religieuses d'être enfermées dans des jeux d'intérêts politiques.
Justement, on a fait une expérience malheureuse et nous en sommes conscients. Et le fait même de commencer plus tôt, c'est aussi pour tenir compte de l'expérience malheureuse que nous avons vécue. Donc, nous avons pris les dispositions pour que ce qui est arrivé ne se répète pas. Et vous l'avez dit, le grand problème, c'est quand on se laisse influencé par les politiques. Et nous ferons un effort, on a pris des dispositions pour qu'on y parvienne, on arrive pas à ce niveau-là.
Vous avez déclaré que cette fois, chaque confession religieuse présentera 3 candidats et le choix sera fait à l'unanimité.
Oui, donc c'est ça, à la plénière, au maximum 3 candidats. Mais une confession peut venir avec une seule candidature si, en triant à l'interne, elle est consciente qu'il n'y a qu'un candidat qui peut porter. Et à ce niveau-là, ça va être un travail qui prendra du temps, certainement. Et c'est pour ça qu'on commence plus tôt, jusqu'à ce qu'on arrivera à un candidat, non par vote, mais par consensus.
D'accord. Et vous y croyez? Vous pensez qu'avec cette nouvelle approche, on entendra moins de bruit dans ce processus de sélection?
Oui, nous pensons que c'est possible, mais il faut aussi retenir que la dynamique a changé. Il y a eu beaucoup de changements dans les confessions religieuses. Je dirais que nous repartons avec un nouvel esprit.
Merci beaucoup. Francis Kalombo, rassuré par cette nouvelle approche des confessions religieuses?
Oui, très rassuré. Moi, je crois que je suis un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense que ce qui se passe ne peut qu'être encouragé. Et surtout que c'est avec le feu vert des parlementaires eux-mêmes. Et si une fois en République démocratique du Congo, on peut déjà prévenir les choses, serait une bonne chose. Vous vous rendez compte que dès que la loi sera votée, quand on va attendre qu'on nous amène quelqu'un, ça fait mal à que la bagarre commence pour le choix d'un candidat, ça serait une très très mauvaise chose. Or ici, la veille de la dès qu'on va promulguer la loi, les confessions religieuses auront déjà une idée de qui pourra diriger la CENI de demain. C'est ça, la population aussi aura aussi une idée, puisque tout se passe en parfaite transparence. Je pense que pour une fois, les choses vont aller mieux et peut-être qu'on va de moins en moins se plaindre cette fois-ci par rapport aux élections. Comme les élections passées, on a eu un président de l'Assemblée nationale qui a décidé lui-même de ne même pas donner les résultats de bureau de vote par bureau de vote, de stopper même les comptages, ainsi de suite. Donc on sait ce qui en est suivi. Donc franchement, nous devons nous tenir le main dans la main. L'UDPS, c'est le parti numéro le parti du chef de l'État. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'UDPS doit être exemplaire, exempté de tout soupçon, puisque le PPRD a fait la même chose, et bien le résultat, c'est que tout le monde commençait à soupçonner le PPRD. Or, l'UDPS est bien parti, l'UDPS est champion
qui réclament la démocratie, les élections. L'IDPS ne doit pas donner l'impression qu'ils ont perdu des élections. Et pour la population, ça serait vraiment un très, très mauvais signal.
Merci.
Du côté de la communication au sein de ces grands partis politiques que je respecte. Ils doivent arranger leur manière de communiquer puisqu'ils les font tellement mal que ça...
Merci, M. Calombo. Il ne reste plus de temps. Il faut que les deux autres puissent donner leur mot de conclusion. Alors, professeur Toumba Loko, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le contexte politique est différent et qu'il y aurait moins de tensions au sein des confessions religieuses et moins de divisions?
Je laisse les confessions religieuses régler leur cuisine interne entre elles et parviennent à trouver au bout du compte le candidat qu'il faudra à la tête de la future CENI. Francis Calombo a rappelé qu'il y a d'autres structures à l'intérieur de la CENI, d'autres postes de responsabilité, donc il y a de quoi faire. Moi je les laisse, j'espère que l'esprit chrétien va souffler. Oui, j'espère que l'esprit va souffler au sein de ces confessions religieuses pour arriver à trouver le bon candidat. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est l'attitude de l'UDPS. Et je voudrais justement rappeler ici simplement que si réellement les responsables de l'UDPS aujourd'hui se rappellent l'idée force qui a conditionné le combat des Ten Tshisekedi, le peuple d'abord, ils doivent privilégier l'intérêt du peuple d'abord.
Merci.
Avant de voir leurs propres intérêts.
Merci beaucoup. Maître Jean-Claude Tshilumbayi, je vous laisse répondre à cela en une minute, s'il vous plaît.
Merci. Le caractère impersonnel dont Maître Francis Calombo parle de la loi, c'est exactement qu'il faut éviter que l'on vienne régir que la loi vienne régir la situation des personnes connues d'avance parce que elles sont déjà candidates. Vous avez vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui à Kinshasa, on dénonce déjà le président de l'Assemblée nationale d'avoir un candidat qu'il est en train de préparer et autour duquel la loi devrait définir le critère. Ça, c'est pas bon. Il faut que la loi précède les candidatures. Ça, c'est clair. Lorsque M. l'abbé Chollet parle de l'expérience malheureuse. L'expérience, elle est plutôt douloureuse, pas seulement celle de désignation de Malonda. C'est l'expérience du processus électoral et du comportement des confessions religieuses depuis 2006. Toutes les élections ont été contestées, alors que organisées par elles, les confessions religieuses. Il est de bon aloi même que notre peuple pense les décharger.
Mais en même temps, M. Tshilumbayi, les confessions religieuses agissent dans le cadre de la loi.
Je voudrais bien, mais la loi, elle sera adoptée. Il faut attendre qu'elle soit adoptée, qu'on voie quel rôle la loi l'air...
D'accord, vous l'avez déjà dit. Maintenant, la question était de savoir... On va désigner un nouveau président à la CENI ou une nouvelle présidente. Est-ce que, malgré tout, malgré votre position, vous êtes confiant de ce que les confessions religieuses sont à mesure aujourd'hui de le faire dans des conditions beaucoup plus apaisées qu'elles ne l'étaient l'année dernière?
Non, je n'ai aucune confiance en elles. Elles se sont entracusées de corruption l'année dernière. Je ne vois pas la possibilité que l'Église catholique convainque toutes ces religions-là de faire des choix objectifs. Moi, j'estime qu'il faut laisser les députés libres dans les réformes. Nous n'avons pas peur des élections. Du 31 juillet au 2 août 2020, nous avons été au centre Nganda, l'UDPS, pour préparer les élections de 2023 avec un document très responsable intitulé IDPS Cap 2023 avec une feuille de route claire. Nous, chaque jour, moi, sur le numéro 2 de la structure qui organise les élections à l'UDPS, je suis même, maintenant que je parle, je suis en réunion, nous sommes en train de préparer les élections.
L'Église catholique a aussi son agenda 2023.
Nous n'avons
pour
pas
les élections.
Peur. C'est que maintenant, lorsque le professeur Toumba craint, sa crainte ne me semble pas fondée. Prof, c'est bien l'état de notre droit positif, de notre droit constitutionnel positif. Ici, moi, j'estime que c'est les députés qui vont adopter la
Merci.
Loi. Dire que les députés peuvent rejeter l'ensemble des réformes, je n'invente rien, c'est du droit. C'est
Merci
ça la logique
beaucoup.
Parlementaire. Et le Parlement est-il réellement tenu d'accepter les réformes proposées par les politiques? Le s'en faut.
Merci beaucoup. Le temps est terminé. Je suis désolé, Jean-Claude Tilumbayi. Merci d'avoir été avec nous. Merci au professeur Toumba Changoloko. Merci à l'abbé Donatien Cholet et à Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, d'avoir participé à ce débat sur la désignation d'un président à la tête de la CENI à RDC. Merci.